Point de rupture, le département de la santé et des services sociaux HHS publie un deuxième rapport sur les traitements pour les personnes transgenres. John Stonestrea et Timothy D. Padgett. Texte traduit de l'anglais par Pascal Cusson, le 9 décembre 2025. La semaine dernière, le département américain de la santé et des services sociaux, HHS, a publié un second rapport sur les dangers médicaux que représentent les thérapies pour les personnes transgenres. Ce rapport, qui complète le premier publié en mai, compte 240 pages. Selon la campagne pour les droits de l'enfant et des parents, Child and Parental Rights Campaign, il s'agit de l'analyse la plus complète à ce jour au monde des données probantes et des revues systématiques concernant les avantages et les inconvénients des traitements pour les enfants et les adolescents souffrant de dysphorie de genre, comme l'indique le communiqué de presse. Le rapport, publié par le bureau du secrétaire adjoint à la santé, conclut que les préjudices liés aux procédures de rejet du sexe opposé, notamment les bloqueurs de puberté, les hormones du sexe opposé et les interventions chirurgicales, sont importants, durables et trop souvent ignorés ou insuffisamment suivis. Citant le docteur Brian Christine, le rapport poursuit. Que dirons-nous aux jeunes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que le corps médical leur a voulu ce droit? Point de suspension. Notre rapport est un signal d'alarme urgent pour les médecins et les parents quant aux dangers manifestes des tentatives de transition de genre. Le rapport décrit comment les consultations médicales sont un processus mené par l'enfant, dans lequel les évaluations complètes de santé mentale sont souvent minimisées, voire omises. Certaines de ces évaluations se limitent à une simple séance de 2 heures. Aucune autre procédure, surtout avec des conséquences aussi extrêmes que la castration ou l'amputation, ne tolérerait une consultation aussi brève. Pourtant, nombreux sont ceux, dans le milieu médical, qui ont cautionné ces pratiques, trahissant leur serment et étouffant toute dissidence. Les témoignages des lanceurs d'alerte et des personnes ayant entrepris une détransition ont joué un rôle crucial pour attirer l'attention du public sur les risques et les préjudices associés à la transition médicale pédiatrique. Leurs préoccupations ont été minimisées, écartées ou ignorées par d'éminents défenseurs et praticiens de la transition médicale pédiatrique. Point de suspension. Il existe des preuves que certaines associations médicales et de santé mentale ont étouffé la dissidence et le débat sur cette question parmi leurs membres. Comme l'a déclaré le secrétaire à la santé et aux services sociaux, John F. Kennedy, ce n'est pas de la médecine, c'est de la faute professionnelle. Et ce phénomène n'était pas isolé. Des universitaires et des institutions respectées ont adopté une idéologie à la mode qui a victimisé des enfants. L'ouvrage novateur d'Anna Barnes, A Time to Think, a documenté comment un groupe d'activistes et de professionnels de la santé a fait pression sur l'ensemble du Service national de santé britannique pour qu'il se rallie à ce qui est devenu la tragédie de Tavistock. De même, aux États-Unis, un consensus médical a été fabriqué de toutes pièces, des groupes comme la WPATH prétendant que ce sont les médecins, et non les idéologues du genre, qui ont mené le mouvement en faveur des enfants transgenres. Ce mouvement reposait sur 2 affirmations. Premièrement, que quiconque refusait d'adhérer à l'idéologie transgenre avait du sang sur les mains. On a demandé à d'innombrables parents s'ils préféraient un fils mort ou une fille vivante. Certains États ont même retiré des enfants à leurs parents qui refusaient de se conformer à cette demande. Le rapport du HHS révèle que ce sont les États, et non les parents, qui ont commis des abus. Deuxièmement, l'idéologie transgenre a été présentée comme une science, un mensonge qui s'est aujourd'hui complètement effondré. L'année dernière, le rapport CAS, publié au Royaume-Uni, a déclaré que les traitements médicaux de thérapie de genre reposaient sur des fondements fragiles. L'étude du HHS s'appuie sur le rapport britannique, mais va beaucoup plus loin. Parmi ses auteurs figurent des scientifiques et des universitaires tels qu'Alex Byrne Dumy, Kathleen McDavid du Baylor College of Medicine et Far Curlin de l'Université Duke. Le docteur Curlin a participé à un forum du Colson Center sur cette question et était l'un des orateurs principaux de la conférence nationale du Colson Center de 2025, il y a quelques semaines, lorsque Kristen Wagoner, de l'ADF, a publié sur les réseaux sociaux que ses enfants ne pouvaient pas obtenir d'Advil à l'école sans son autorisation, mais qu'ils pouvaient entamer une transition, ses détracteurs l'ont traitée de menteuse. Wagoner a répondu en apportant des preuves, comme on dit. De même, en mai, des critiques ont tenté de discréditer le rapport initial du HHS, mais le rapport de suivi de la semaine dernière apporte les preuves médicales. Comme l'a écrit Wesley Young, l'idéologie transgenre a progressé grâce à une politique de non-débat, s'appuyant sur la censure et la répression de la dissidence comme premier recours pour utiliser le pouvoir étatique et administratif afin d'imposer ses dogmes erronés. Mais suivre la science nous a ramenés à la vérité. Il est essentiel que nous continuions à dire la vérité. Ce rapport confirme que la vérité est de notre côté et, plus important encore, du côté des enfants.